Podemos subir por tarde. Et bien, je viens de l'Assemblée. Nous avons des procurations, celle de Marc-Paul Béatrice Rencontré, celle de Claude Clavel pour Caroline Favier, celle de Patricia Moulin-Trafort pour Sophie Campagne, celle de Jean-Michel Léon pour M. André Sanchez, celle de Mme Rabinovici pour M. Bouquet, et c'est tout. Je pense que nous n'avons personne. Certaines personnes nous rejoindront à mon séance, j'espère. Avant de développer le premier point, je vous donne quelques faits marquants de cette saison estivale qui, cette année, a été marquée par la canicule qui a été assez moyenne d'un point de vue économique. L'office de tourisme dénote une fréquentation moindre, ce qui est un constat partagé par les autres stations littorales voisines de la Garde-Monte et de Paris. Nous avons, au cours du mois de septembre, trois week-ends de réunion, la fête du sport, d'abord le 7 septembre, avec 2000 participants. Le samedi 14 septembre, le forum des associations qui se tenait cette année à Rio. Et le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, nous avons accueilli de nouveaux arrivants le jour du forum des associations. Et le 21 et 22 septembre, nous avions une journée du patrimoine qui ont été dédiées cette année à une mise en exergue du château des Côtes de Mergueil qui a été récemment rénové. Ensuite, au niveau des fonctionnalités de la ville, nous avons eu l'inauguration de la ligne 4 mise en place dans l'agglomération, elle s'est faite à la Grande Monte, avec la ligne 606 mise en place dans la région, avec des nouveautés, aussi quelques frustrations. Nous avons pris bonne note des usagers mécontents, notamment des usagers carnaudais. Nous avons réussi à avoir une liaison assurée avec la station de tram de l'État de l'Or. Néanmoins, l'ancienne ligne 106 satisfaisait beaucoup de Camerounais et le comité syndical d'Aérotransport, dirigé par la région, a accepté d'apporter des amendements qui seront bientôt officialisés en termes de liaison rapide avec la métropole, notamment avec Montpellier. Voilà, nous y sommes tous très attentifs et je peux vous dire que la région s'emploie à satisfaire au mieux les attentes des Camerounais. Le mardi 17 septembre, nous avons eu une réunion publique sur le projet de requalification urbaine de Camerounais dans cette même salle qui était archi-comble, plus de 200 personnes. Les Camerounais s'intéressent trop à leur projet, c'est très bien, j'en suis ravi. Une réunion riche qui sera suivie encore d'un autre atelier de concertation, puisque c'est ainsi que le projet se déploie. Avec un cadre politique et ensuite une association, une concertation de citoyens qui viennent ici et là donner de bonnes idées à la conduite du projet et à la maîtrise de l'œuvre. Enfin, nous sommes arrivés avec 2-3 minutes de retard puisque nous visitions le centre de protection urbaine, le CPU, qui a été mis en place cet été à Carnon, dans le poste de police. Un CPU qui est destiné justement à visionner les images en direct de ce qui se passe sur la voie publique. Ces images ne peuvent être visionnées qu'en direct, elles sont ensuite stockées pendant 15 jours et visionnables que sur réquisition du parquet pour justement participer à l'élucidation de certains délits, ce qui a été le cas pour 3 délits commis cet été à Carnon. Donc nous avons un bilan sur Carnon globalement positif, avec une baisse de 20% des faits délictueux. Une réunion s'est tenue avec le major Grelevoix, qui commande la brigade de Palavas, le commandant Garcia, lui, qui sont patrons. Donc nous avons fait ce constat d'une certaine amélioration générée par la présence également de la police municipale qui travaille 24 heures sur 24. Et je tiens à les féliciter puisque la semaine dernière, il y a eu une arrestation de Frédéric Mélie avenue Garcia Cibra. Voilà. Donc, comme quoi, petit à petit, cette reconquête de la sécurité pour ceux qui l'auraient perdue vienne se faire. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui s'attellent à ce projet. Voilà, brièvement, les éléments de contexte d'une saison que nous venons de vivre et qui se poursuit avec ce qu'on appelle l'été indien. Je vous demande maintenant d'adopter, mesdames et messieurs, je vous propose d'adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal qui n'a pas fait l'objet de remarques écrites. Auriez-vous des remarques en séance? Non. Je vous remercie, je considère le projet adopté définitivement. Vous avez une question? Monsieur Bourguet?
Oui, je voudrais poser une question avant de commencer le conseil municipal. Je voulais savoir s'il serait possible éventuellement d'ajourner le point 22. C'est un point qui concerne le permis de démolir la capitainerie. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui m'ont remis des pétitions, dont une grosse partie des pétitionnaires sont les usagers du port. Donc, une grosse partie des usagers sont les usagers du port. Donc, voilà, le but, ça serait qu'on ait le temps d'avoir un débat serein avec les gens qui sont concernés par cette opération.
Monsieur Bourguet, j'attends votre requête, je répondrai à l'examen du point. Voilà. Bien, donc nous adoptons le compte-rendu du dernier conseil municipal et nous passons aux décisions municipales donc, qui sont en page 6 et 7, donc des délibérations relatives à des contrats de spectacle, d'intervention culturelle. Je rappelle que nous sommes les derniers pour lancer les interventions de l'habitat au théâtre Passager. Nous avons ensuite des procédures adaptées par rapport à la RGPD, c'est sur la protection des données, avec la désignation d'un référent, c'est la société Humanis. Des procédures adaptées pour des travaux avec les entreprises de droit public, Colas, Dallo, Société Bondon, de l'électricité. Beaucoup de travaux ont été réalisés dans les écoles cette année. Il y en a plus de 500 000 euros pendant l'été, au bénéfice des enseignants et des enfants, avec également des délibérations relatives aux fournitures scolaires, aux écoles maternelles et élémentaires de la ville. Ensuite, nous avons eu des avenants. Nous avons eu des avenants par rapport à l'îlot Prévert. Voilà, donc tout est exposé, il n'y a pas de remarque particulière. Si vous voulez bien, nous allons passer à l'examen du point numéro 1. Et je cède la parole à ma voisine, Mme Caroline Fabier.
Bonsoir. Alors, le point numéro 1 est une délibération sur une décision modificative du budget principal. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une décision modificative? C'est tout simplement, à un moment donné sur l'année, nous allons faire un point, un ajustement entre le budget primitif et la réalisation en cours des travaux réellement exécutés. Alors, je vous propose un premier petit schéma pour situer sur l'année du budget, pour voir exactement où on en est et à quoi ça correspond. Ce sera plus concret que ce que je vous dis. Adressons là. Il arrive. On a en tout début d'année, on a commencé par le débat d'orientation budgétaire, puis ensuite on a voté, voilà le petit schéma qui arrive, on a voté le budget primitif, le titre,
on était à primitif.
Ça y est. Ça aurait été dommage de s'en priver. Donc on a commencé par le débat d'orientation budgétaire, on a voté le budget primitif, et 10 mois après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la décision modificative, c'est-à-dire qu'on fait le point par rapport à ce qui était prévu, et où nous en sommes, et surtout les ajustements comptables. Et puis bien sûr, on terminera l'année par le compte administratif. Alors, une première vue d'ensemble sur la décision modificative, et bien sûr, après, on rentre dans le détail. Donc, pour mémoire, le budget principal de 2019 représente la somme de 29 millions d'euros. La décision modificative permet une augmentation des recettes et des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire tout le budget qui fait fonctionner notre commune, de 71 000 euros, ce qui est très peu puisque ça représente seulement 0,02% du budget qui est, je viens de vous le dire, de 29 millions. L'excédent de fonctionnement, puisqu'il nous ressort un excédent, permet un financement supplémentaire des investissements, puisque la somme qui est en excédent va être glissée sur le budget de l'investissement. Cette somme supplémentaire représente 224 900 euros. La section d'investissement, qu'on verra aussi un peu plus en détail, s'élève pour le budget de 2019 à 18 millions d'euros. 18 millions d'euros d'investissement prévus sur l'année sur la commune de Mauveau-Carmont. Aujourd'hui, pour vous donner un repère, tout ce qui est réalisé, engagé, c'est-à-dire vraiment en cours, représente 13 millions d'euros. La décision modificative conduit à une diminution de 646 100 euros, on verra pourquoi, des recettes d'investissement, soit 3,5% du budget d'investissement. Alors, on va aller un peu plus en détail sur les deux différents budgets. On commence par le budget de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire fonctionner la commune. Alors, je vais vous donner, bien sûr, les chiffres les plus parlants, les plus significatifs. Il y a eu des économies importantes qui ont été réalisées sur les charges à caractère général. Ces économies ont représenté 235 000 euros, c'est-à-dire 3,6% du budget de fonctionnement. C'est essentiellement des économies qui ont été faites sur les travaux du Lido. Puis, des économies ont été faites sur les primes d'assurance, c'est-à-dire que tous nos contrats d'assurance ont été revus. Et une fois de plus, les services ont été efficaces et ont permis une économie de 13 000 euros sur l'année. Ces économies permettent de compenser, bien sûr, des augmentations qui ont eu lieu aussi. J'ai eu une augmentation de 19 400 euros qui correspond à une augmentation de l'enveloppe dédiée au FPIC. Le FPIC, c'est le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. C'est-à-dire, c'est les fonds que versent au niveau de l'enveloppe nationale toutes les communes et qui redescend ensuite sur les communes qui en ont le plus besoin. Donc, ce montant du FPIC pour l'année 2019, vous voyez ce que ça représente, c'est 441 400 euros. Une augmentation des participations et charges de gestion courante, 58 500 euros. Ça, c'est surtout les provisions que nous sommes obligés de faire, comme les entreprises d'ailleurs, pour des créances dites douteuses qui viendraient le long de l'année. Puis une augmentation de 4 300 euros suite à des sinistres, notamment ce sont les caméras de surveillance qui avaient été vandalisées. Donc ces économies au niveau du budget de fonctionnement représentent 224 900 euros et ce montant est la somme supplémentaire que nous allons pouvoir injecter dans le budget d'investissement. Au niveau des recettes d'investissement, de fonctionnement, pardon. C'est ça. Donc, la décision modificative conduit à une hausse de 71 000 euros des recettes de fonctionnement. On constate une augmentation des atténuations de charges correspondant à des remboursements d'assurance à hauteur de 101 500 euros. Une reprise pour provision pour les créances douteuses, donc c'est exactement l'équivalent de ce qu'on avait dans les dépenses, bien sûr, à hauteur de 55 200 euros. Des recettes exceptionnelles, 32 450 euros, qui sont versées à la commune dans le cadre des mécénats, puisqu'on a des services actifs et agents actifs qui cherchent à récupérer des mécénats, des subventions, pour toutes les animations culturelles et sportives que nous avons sur la commune. Puis des produits et ventes diverses à hauteur de 12 700 euros et d'autres produits de gestion courante. Ces augmentations compensent les diminutions des recettes de fonctionnement qui ont nécessité des ajustements à la baisse par rapport aux provisions budgétaires. Alors ça, c'est important aussi puisqu'on est directement tributaire des dotations qu'on reçoit. En 2019, le montant des impôts et taxes s'élève pour la commune à 12 millions, soit une baisse de 77 000 euros, ce qui représente une baisse de 0,06%. et les dotations et participations à l'État, de l'État pour 2019. Nous avons une baisse de 61 000 euros pour la commune de Montbiot-Carmont sur un budget de 1,1 million. Au sujet du budget d'investissement cette fois, section d'investissement, donc toujours pareil, pour les dépenses, on va voir les chiffres les plus significatifs. Avant de passer à la section d'investissement, je voulais juste vous repréciser deux principes de fonctionnement pour l'investissement. Vous avez soit l'investissement, l'inscription, on va dire classique, c'est-à-dire on inscrit la totalité du projet dès le démarrage des travaux, dès la première année. Soit le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle les APCP, c'est-à-dire autorisation de programme et crédit de paiement, où là, on va sectionner le budget du projet et on va l'inscrire chaque année où il sera, où les trajets, les projets seront réalisés. Donc, au niveau de la décision modificative, on est obligé de faire la différence, puisque les APCP, bien sûr, ça peut être des simples glissements sur le budget et non pas des économies ou des augmentations. Donc, au niveau des dépenses d'investissement, elles ont été ajustées à la baisse pour prendre en considération à la fois des résultats des appels d'offres et de l'avancement des travaux, et à la fois par rapport au suivi des APCP dont je viens de vous parler. Pour les appels d'offres, il s'agit notamment des économies qui ont été réalisées sur l'opération du château, moins 40 000 euros, la casquette du boulodrome, moins 50 000 euros, la création du fossé nord de la rue du Jean Moulin, moins 50 000 euros, le programme de la voirie 2019, moins 241 000 euros, et sur la réalisation de la rue François-Villon, plus 140 000 euros. Donc ces économies permettent de financer la rénovation complète des dispositifs de chauffage et de climatisation de la mairie, qui représentent plus 120 000 euros, et l'augmentation de l'avance consentie à la SPL au aménagement dans le cadre de la convention du mandat pour la réalisation des travaux relatifs au schéma directeur, plus 154 000 euros. Et la programmation de certains projets, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette précision en introduction, c'est vis-à-vis des APCP, où là, il s'agit d'un glissement de projet et non pas d'une baisse ou d'une augmentation des travaux. Donc il y a eu l'aménagement de l'îlot Prévert, moins 180 000 euros, puisque ces 180 000 euros sont reportés en 2020. La dernière tranche de la requalification de la rue du Saut du Loup, moins 250 000 euros sur le budget 2019, mais qui seront reportés sur le budget 2020. Et la requalification du boulevard des Tiennes d'Or, moins 300 000 euros, mais là encore, c'est un simple report sur l'année prochaine. Donc, à ces dépenses, bien sûr, correspondent des recettes d'investissement qui sont ajustées. La décision modificative conduit à une diminution des recettes d'investissement correspondant de 641 000 euros pour 2019. Grâce à l'attractivité de notre territoire, le produit de la taxe d'aménagement augmente en 2019 de 400 000 euros, c'est-à-dire que nous doublons le produit de notre taxe d'aménagement. Sont arrivés sur notre territoire Capsule d'espace commercial, l'hôtel Montpellier Méditerranée, l'Air Park qui est la réalisation des bureaux de l'aéroport. Donc on double, on passe de 400 000 à 800 000 euros sur la taxe d'aménagement, sur le produit de la taxe d'aménagement. La diminution des recettes s'explique par un décalage des emprunts. Donc on empruntera 480 000 euros de moins cette année, qui sera reporté sur l'année suivante, bien sûr, dû au décalage des travaux. Pour vous donner un ordre d'idée, cet emprunt sera de 4 400 000 euros. L'objectif de ces ajustements est de prendre en considération le décalage dans le temps réel, la réalisation des opérations. Alors, en conclusion pour cette décision modificative, elle démontre que des économies ont été réalisées sur le budget de fonctionnement, que des économies ont été possibles sur la réalisation des travaux, sur le coût des travaux d'investissement, et que notre territoire est toujours plus attractif et dynamique. Donc cette décision modificative a pour objet d'ajuster le budget par rapport aux réalisations. J'espère que ça a été assez clair pour vous. En tout cas, c'était la démonstration que j'essayais de faire. Et je reste à votre disposition s'il y a des questions.
Merci Caroline. Donc, je pense que le message est bien passé. Et les supports visuels nous ont bien aidé également. Donc, je vais vous demander d'adopter cette décision modificative numéro 2 au budget principal de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Mme Fabier, question numéro 2. Participation. 2019, au sein de la mixte, posée le problème de la pêche et la protection des zones marines et de vols également.
C'est ça, donc il s'agit de participer pour de verser une subvention annuelle à hauteur de 1 000 euros.
C'est une démarche que nous faisons tous les ans. Participe à la maison de protection, toujours mieux à la suite que de réparer. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point numéro 3, modification.
C'est une modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement pour la réhabilitation du lot vert. Donc là, c'est d'autant plus facile d'en parler qu'on vient de voir la modification, la décision modificative au préalable. Donc c'est exactement ce dont je vous parlais, les APCP. Donc là, il s'agit simplement d'un glissement. Donc il convient de modifier tout simplement le montant qui va passer, donc 460 000 euros qui va glisser sur le budget de l'année 2020.
Oui. D'abord, si je lis bien ce qui est écrit, cette augmentation des travaux est liée directement au fait qu'on vend une partie des locaux à la SPL et qu'elle a besoin de plus de place que ce qui est prévu. Alors bon, vous savez, je l'ai déjà dit, je suis contre cet état de fait. On est mis un peu devant le fait accompli. Mais en plus, ce qui me gêne, c'est que dans le PPI, on avait dit qu'il y avait 600 000 euros sur la vente à la SPL. Or, rien que l'extension des locaux pour eux, c'est presque 300 000 euros. Ça veut dire qu'on va leur vendre une bouchée de pain, finalement. On nous avait dit à la Fondue Moguio que 3 700 euros le mètre carré, c'était en dessous du prix du marché. Là, on va être autour de 1 200 euros le mètre carré. Ça me paraît un peu bizarre tout ça. Ensuite, je voulais dire que je suis vraiment déçu au niveau architectural. Cette cassure dans la circulade, c'est vraiment un scandale. On n'en avait pas besoin de le faire si on n'avait pas choisi de mettre des entreprises privées après l'air.
Je ne vous remercie pas pour votre intervention. Je vous remercie pour la forme, pas sur le fond, puisque je rappelle que c'est une structure publique qui est administrée par des gens qui sont élus et pas une structure privée. Et que le prix de vente qui sera définitif, vraisemblablement fait d'ici 3-4 mois à l'ASPL, correspondra sou pour sou à ce que cela aura coûté. On est dans une enveloppe de 740 000 euros, chose comme ça. Voilà. Donc après, que vous n'appréciez pas le côté architectural, sur les mots et les couleurs, ça ne se discute pas, mais je ne veux pas laisser supposer que l'argent public sert à financer d'autres intérêts que ceux du public.
Donc, il m'empêche que la vocation de Prévert n'était pas ça. Donc on n'avait pas besoin de faire cette verrue sur la circulade pour mettre la SPL qui n'avait pas à être là. Je vais très bien la mettre ailleurs.
Ça c'est votre point de vue, monsieur. Que je vous laisse vous. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Mme Fabier.
Alors, il s'agit d'une modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement, c'est-à-dire toujours une APCP, pour la rue Jean Moulin. Donc, c'est suite à une bonne nouvelle, puisque la deuxième partie commence plus tôt que prévu. Et donc, le montant de cette deuxième partie est ramenée sur 2019. Donc il s'agit de... Et le crédit de paiement est augmenté de 150 000 euros. Donc pour 2019, il y a un montant de 1 362 708 euros et 2020, 1 190 000 euros.
Bien, nous passons au vote pour ces modifications. Sur le programme qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Pour la réduction du groupe, la même démarche.
Exactement. C'est la même démarche pour la réduction du groupe. Alors cette fois-ci, nous avons, suite à l'attente de finalisation du schéma de déplacement urbain, on reporte sur 2020. Le dernier aménagement, et c'est donc un report sur 2020 d'un montant de 250 000 euros.
Dans ce vote, contre, abstention, merci. Et maintenant, on parle de la création du procédeur pour nos mondiaux.
C'est ça. Même chose, APCP, avec cette fois-ci une économie de 50 000 euros, et donc il y a. On partait. Le programme était sur 900 000 euros à l'origine, passe à 850 000 euros. Et donc le crédit de paiement reste bien sur 2019, puisque le projet sera terminé en 2019, mais avec une diminution de budget de 50 000 euros.
S'il vous plaît,
monsieur Papoli,
vous dites que le projet d'Arthur de Mourio sera terminé en 2019, on peut avoir une date? Parce que qu'est-ce qui va être finalisé sur la faune de Mourio? Et ça situe où le fossé? Oui, d'accord. C'est le pluvial que vous avez pris sur l'avenue Jean Moulin que vous envoyez vers la faune de Mourio.
C'est ça, c'est ça, oui.
D'accord.
J'ai une question sur le fossé. On a souvent parlé du financement de ce fossé. Donc, je vois 500 000 euros à la charge de la SPL. 100 000 euros autofinancement, c'est la commune, c'est ça? Et l'emprunt de 250 000 euros, c'est la commune ou c'est la SPL?
La commune. Oui. C'est l'avenue de Roulet, je le rappelle.
Oui. Le fossé, il est fait pour la fonte.
Vous en parlerez aux riverains de l'avenue Jean Moulin qui sont quand même ravis de voir qu'on s'occupe du traitement des eaux. Oui. Comment ça va être occupé pour ceux de l'avenue Garmelazienne 2006?
Ils seront ravis quand ils auront plus d'eau.
Comment?
Ils seront ravis quand ils auront plus d'eau.
Laissez les travaux se terminer, il n'y en a toujours pas longtemps, si vous voulez. On est là pour tout voir. Là pour tout voir. Tout voir. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 4. Autre gestion de programme et crédit de paiement pour la rue François-Villon, toujours en famille.
Donc, toujours une APCP. Cette fois-ci, on a une économie sur la réalisation des travaux. Donc, de 470 000 euros prévus initialement, le montant des travaux sera de 410 000 euros. Et les crédits de paiement sont étalés sur 2020 et représenteront une somme de 80 000 euros. Donc 80 000 euros reportés à 2020, mais avec une économie de 60 000 euros sur la réalisation totale du projet.
Dans ce vote, contre, abstention, merci.
Toujours une APCP sur le programme de voirie. Alors là, nous avons une augmentation sur la totalité du projet de 20 000 euros, c'est-à-dire le montant prévu initialement 438 000 euros passe à 458 000 euros et un report sur, non, d'ailleurs pas de report puisque ce sera terminé, sur 2019 pour un montant total des 457 136 euros exactement. Donc avec l'augmentation, là il s'agit d'augmentation des 20 000 euros.
Monsieur Bondelli,
Monsieur le maire, vous avez une opposition préférée? Il y en a qui en ont un micro, il y en a qui en ont pas. Comment ça se passe?
Bien,
il est préférable que vous ayez un micro, Monsieur Bondelli.
Ça, c'est Daniel qui est le chouchou ce soir.
Sur l'ensemble de ces questionnements de crédit de paiement, en règle générale, ça peut être des retards de travaux. l'endroit où c'est le plus inquiétant, c'est Prévert. Où est-ce qu'on en est par rapport à la duraison des travaux? Est-ce qu'on est dans le rythme qu'on avait prévu, ou est-ce qu'on est très en retard? Et s'il y a une voirie sur laquelle on est très en retard aussi, quelle en est la raison? Est-ce qu'on est réseau technique ou de marché?
Au niveau de Prévert, ce qui retarde un petit peu, c'est l'extension pour les SPL. Donc, il y a des travaux qui se font. Après, l'ensemble doit être livré début janvier. Enfin, opérationnel début janvier. Il y a ce qu'il faut mettre le mobilier, mais le programme marche normalement. On a été retardé au début par les problèmes des grosses entreprises, les problèmes d'étagéité. Il y a eu Jacques, pendant un certain moment, on a eu quand même. Je te laisse la parole.
Oui, effectivement, avant qu'on aborde les travaux de secondaire, on a été. L'entreprise d'agilité a été défaillante. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu que l'on reconsulte. On ne pouvait pas continuer les travaux tant que le bâtiment n'était pas étanche. Après, il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire ces qualités d'ISIS. Il y a un câble moyen de tension qu'il va falloir qu'on détourne. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fonction de l'emprise qui passait au ras du domaine public, et maintenant, on n'est pas conforme. Alors, quand on rentre dans ces organismes-là, bon, je veux dire, on sait quand on commence et on ne sait pas quand ça se finit. Voilà le gros problème, le problème que nous rencontrons actuellement. Autrement, le chantier, c'est un groupe, normalement, au fur et à mesure, chaque semaine qui se passe, on voit le travail qui s'effectue. Et je peux vous dire que c'est un beau bâtiment.
J'ajouterai qu'on a perdu un peu de temps au début à cause du cadre euro, qu'il a fallu consolider. Et ça, tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'a pas fait des sondages, l'importance n'était pas sûre. Voilà. Okay. Je vous propose de voter ces modifications d'APCP. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Toujours Mme Clavier.
Alors, nous laissons les APCP. Cette fois-ci, il s'agit d'une modification sur la délibération que nous avions faite le 20 mai 2019 pour apporter une garantie d'emprunt à la Caisse des dépôts. Pour un projet mené par la société Promologis. Donc là, c'est uniquement, c'est purement administratif, c'est que le document qu'ils nous avaient eux-mêmes fourni ne leur convient pas. Donc on repasse la délibération sur le modèle, cette fois-ci, que nous donne la Caisse des dépôts et consignations, modèle en vigueur, tout simplement. Mais il n'y a aucune modification, bien sûr, de montant ou de garantie.
L'achat de ces appartements avait été déjà voté, avait été déjà produit.
Oui, on redélibère sur la décision que nous avons prise, faute d'un rédactionnel qui conduit. Mais ce n'était pas notre fait.
Et il ne s'agissait pas d'un achat, c'était une garantie d'emprunt. On se portait garant, voilà. D'accord.
On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Toujours garantie d'emprunt sur Occitane 3F.
Alors là, c'était nous avions amené une garantie d'emprunt pour la société immobilière méditerranée, et cette société immobilière méditerranée a été absorbée au profit de la société 3F Occitanie. Donc, nous devons transférer cette garantie d'emprunt auprès de la société 3F Occitanie. Ce sont des emprunts qui avaient été faits pour la construction de la résidence Véralous, et ce sont des emprunts qui sont portés par la Caisse des dépôts et consignations. Évidemment, il s'agit d'une société connue et reconnue sur laquelle on ne prend pas de risque en transposant notre garantie. Même chose, on ne change ni montant ni garantie.
Nous passons au vote pour le maintien de garantie. Contre, abstention. Merci à tous. Cession des actions détenues par la communauté de Beaucure à l'OPH Héro Habitat.
Alors, en 1996, la commune de Mogio a pris part au capital de la SADH, qui est la société Héro Habitat, avec 300 parts, ce qui représentait 4 800 euros. Puis en 2011, la commune a pris des parts au niveau de la SEM, Héro Aménagement. Le conseil départemental souhaite désormais de rapprocher l'Office public de l'habitat, l'OPH et la SEM, et donc nous demande de bien vouloir céder nos parts. Le montant total de ces deux montants que nous avions représente 22 560 euros que nous récupérons bien évidemment et nous cédons les parts.
Pour cette session, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point numéro 7 est relatif à la rénovation énergétique des locaux de la mairie de Montbion avec une demande de subvention. Comme vous avez pu le constater, donc les systèmes de climatisation et de chauffage ont vécu, comme on dit, et fournissent des performances énergétiques dérisoires. Dit autrement, donc les installations sont en fin de vie, elles sont très énergivores, et même les installations hydrauliques, elles aussi, sont défaillantes. Aujourd'hui, il convient donc de reprendre tous ces travaux d'un montant estimatif de 450 000 euros en taxes, ça n'est pas rien, et nous demandons aux divers financeurs que sont notamment la région la possibilité d'une aide pour participer à cette transition énergétique afin que nous ayons des performances meilleures que ce qu'elles sont. Voilà. Donc je vous demande de voter cette demande de subvention qui est contre. S'abstient, je vous remercie. Le point numéro 8, alors c'est un point dont on a entendu parler, dont on entend beaucoup parler, de la RGPD, un sigle qui veut dire le règlement européen général pour la protection des données personnelles. En fait, il ne vous a pas échappé que l'évolution des technologies appelle des mesures d'accompagnement pour la protection des données individuelles. On l'a vu tout à l'heure en visitant le CPU, le Centre de protection urbaine, bon, rien n'est plus précieux que la liberté de l'individu. Et à ce titre, donc, tout ce qui est aujourd'hui informatisé, tout ce qui est nouvelle technique, contribue parfois à une forme d'ingérence dans la vie privée, professionnelle, des citoyens. À ce titre, donc, dans un contexte de modernisation de l'action publique, donc de l'administration, il est demandé de, par ce règlement, a désigné un délégué pour la protection des données, qu'on appelle DPO, Data Protection Officer, qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le règlement. Et donc, je vous propose de. Alors, la mission, c'est d'informer le conseiller d'organisme, de réaliser l'inventaire et la cartographie des données, de conseiller, de veiller au respect du règlement, piloter la conformité en continu, concevoir des actions de sensibilisation, enfin, coopérer avec l'ANI, la Commission nationale des libertés, qui est l'autorité de contrôle de la matière. Donc, la personne qui est. Donc, il est proposé d'externaliser cette fonction et de désigner un DPO au sein d'un cabinet spécialisé, un DPO externe mutualisé, pour l'OMT, pour le port, pour le CCS de la ville de Bouillot-Carnot, pour le CIV des Garrigues et pour le CIVOM de la baie des Commandes. Le groupement de commandes nous permettra de mieux, disons, traiter cette protection pour tout le monde. Donc, je vous propose de nommer Mme Patricia Chemin-Noël, Société du Malice, DPO Manager. Voilà, et de m'autoriser à signer cette délibération. Monsieur Fouguet, vous avez la parole.
Oui. D'abord, je voudrais savoir au niveau du montage, si c'est, ça a bien un présent. Si je comprends bien, c'est un cabinet extérieur dans les jurés.
Oui.
C'est passé par la nappe d'or.
Il y a une consultation, bien sûr.
Parce qu'on n'a pas les montants, vous n'avez pas donné les montants, le budget de cette DPO. Il n'y aura pas dans la délibération.
Combien, vous dites 40 000 euros.
40 000 euros par an.
Non.
La mise en place.
La mise en place.
Et de toute façon, sur votre demande, les comptes vous seront fournis.
Et après, il va y avoir. Quelqu'un qui va jouer un rôle de médiation.
Cette dame là, qui est la manager de la société Imanis, Madame Chevalier-Noël.
D'accord. Donc après, il va y avoir un budget annuel.
Non, c'est la totalité de la mission.
C'est un forfait. C'est un forfait.
Ah, c'est ça, voilà.
Est-ce qu'on n'aurait pas
c'est
pu... Est-ce qu'on n'aurait pas pu élargir sa mission au problème des compteurs électriques? Parce que ça fait partie de la même problématique exactement. On a beaucoup de gens qui s'inquiètent du compteur liquide pour ces raisons-là, pour les données, la restitution des données. On a beaucoup de gens qui sont inquiets, ne savent pas à qui s'adresser. Donc, on en avait déjà parlé. Actuellement, à Carnon, les compteurs liquides ont été installés pratiquement partout. À Mobio, ça arrive. Donc, je pense que vous pourrez compléter sa mission pour les gens qui sont inquiets par rapport aux compteurs liquides.
Nous avons eu comme réponse c'est qu'il fallait consentir le contexte réglementaire, même si en tant que citoyen, vous avez toute légitimité pour vous interroger sur le bien fondé d'une mise en place là.
C'est
la protection des données, c'est pas la protection, c'est autre chose. C'est comme si vous parliez.
Sur le compteur liquide,
c'est comme si vous parliez des antennes téléphoniques. Là vous divergez.
Non, je ne diverge pas. Je parle bien de la protection des données. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du compteur liquide par rapport à la protection des données. Et de ça dont je parle.
La responsabilité de la commune là-dessus n'est pas engagée. C'est pas la commune.
Oui, la commune est engagée puisqu'elle n'a pas voulu aider nos concitoyens qui s'inquiétaient.
Ça, c'est votre interprétation.
Non. Vous l'avez refusé en conseil municipal. Je demande si ce médiateur pourrait étendre sa mission à ça.
Non, c'est pas un médiateur. C'est un cabinet de contrôle qui, justement, est là pour veiller, comme toutes les collectivités. Toutes les collectivités de France sont soumises à cette obligation.
C'est compris. C'est compris.
Ah, oui. Le point numéro 9 est relatif à la délégation du service public d'enlèvement, de mise en fourrière et de garde des véhicules automobiles. Donc nous sommes arrivés à échéance pour choisir un délégataire qui peut être celui que nous avions ou un autre. Donc la commission d'appel d'offres s'est tenue le lundi 30 septembre. Et je vous propose, la commission d'appel d'offres a jugé l'offre de Montpellier Dépannage plus intéressante que le précédent mandataire, avec plus de moyens à disposition. Il y a plus de véhicules, plus de chauffeurs et un nombre plus important de véhicules mis à disposition pendant l'été dans les moments où il faut enlever les véhicules. Donc c'est la société Montpellier Dépannage que je propose au vote du conseil municipal après avis de la commission, qui est l'avis conforme à l'avis de la commission. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10 est un point classique, c'est un appel d'offres sur l'acquisition de véhicules neufs. On a à peu près, il y a 9 lots pour un montant de marché qui avoisine les 260 000 euros en taxes. Hein. Ce sont souvent des véhicules professionnels, des véhicules pour les électriciens, des véhicules pour les plombiers, des véhicules de... Donc la mise en concurrence nous a amené à désigner des attributaires par lot. Le lot taille-fer pour le lot 2 pour 23 502 euros. Taille-fer pour le lot 3 pour 23 402 euros. Taille-fer pour le lot 4 pour 24 000 euros. Pour le lot 5, toujours taille-fer 24 000. Taille-fer pour 2 véhicules 61 761. Michel Équipement pour le lot 8 pour un montant de 30 104 euros. Et Club France pour le lot 9 pour un montant de 69 795 euros. Je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est l'avis de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue et qui a délibéré à l'unanimité pour la désignation des attributaires que je cite. Les lots qui ne sont pas cités, donc 1, 6, ne sont pas attribués parce qu'ils ont des faits infructueux, donc on les restera. Donc, passe au vote, M. Bourguet.
Oui. Juste une question, je voulais savoir s'il y avait eu une recherche qui avait été faite sur les changements de motorisation, soit GNV, soit électrique, vu qu'on va avoir des stations de GNV sur le champ de l'or.
Pour chaque véhicule, M. Bourguet.
D'accord.
Merci. On est vigilants. Les services sont très vigilants, les élus aussi. C'est bien. On passe au vote, contre, abstention. Je vous remercie. Point numéro 11, il ne s'agit pas de véhicules, mais de mobilier pour les services, offre de fourniture, de montage d'installation, achat de certains mobiliers ergonomiques qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail. Donc là, pareil. Donc, une commission d'appel d'offres s'est tenue et propose de désigner avec l'entreprise attributaire Espergo Provençal d'Agronomie pour l'eau 1 et Office des Ports France pour l'eau 5. Voilà. Donc il s'agit de sommes qui sont relativement moindres que le précédent lot. Mais voilà, la commission s'est prononcée à l'unanimité également pour cette désignation. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Le point numéro 12 est relatif à la signature de l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la capitainerie de Carnot. Alors, là, il s'agit de thalassothermie. La thalassothermie, donc, est un procédé qui aujourd'hui est mis en place, notamment dans des nouveaux ouvrages comme Ancette, par exemple, où on essaie de limiter autant que possible la facture énergétique du bâtiment. Donc, on essaie d'aller chercher de l'eau en profondeur pour faire du chauffage ou pour faire de la climatisation. Voilà. Donc, la mission proposée, qui oscille avec le 3775 euros de taxes, donc, est à rajouter au marché pour étudier ce procédé. Il faut que nous vérifions la faisabilité technique de cette solution et les impacts qu'elle pourrait avoir. Voilà, dans un souci d'être toujours plus performant dans la transition énergétique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point numéro 13 est un point contextuel puisqu'il concerne notamment Carnot. Il s'agit de la mise en place de l'entretien des passages ouverts au public et notamment la résidence de la Civadilla. Vous le savez donc, c'est une régularisation. Il est question pour la commune d'approprier les passages qui vont de la ville vers le port, qui sont les passages ouverts au public. Ces travaux ne peuvent se faire qu'avec l'aval des copropriétaires. Et aujourd'hui, les copropriétaires de la résidence de la Civadilla nous ont donné leur accord pour faire cela et nous l'avons fait. Donc, aujourd'hui, j'en profite pour inciter les différents occupants des différents bâtiments à porter la parole auprès des syndics pour se rapprocher des services municipaux. Ce sont des lieux publics, c'est de l'argent public, mais il faut quand même l'autorisation des copropriétaires. Il n'est pas question d'y imposer des inscriptions ou des décors litigieux ou au bénéfice de qui que ce soit. Il est question simplement de propriété urbaine. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à cela avec les différents syndics en espérant que ça fera tache d'huile pour la prochaine saison. Monsieur Bourguet.
Oui, j'ai une question parce que dans la convention, vous avez précisé, dans le livre de la convention, vous avez précisé le nombre de nettoyages que vous alliez faire dans ces passages. Je trouve que c'est bizarre, pourquoi avoir mis ça dans la convention, une fois par trimestre et deux fois par mois en saison. Alors d'abord, je trouve que c'est très contraignant de mettre ça dans la convention. En plus, une fois par trimestre et deux fois par mois en saison, ça me paraît très peu, ça devrait être nettoyé autant que les rues ou les trottoirs. Donc je pense que ça serait judicieux d'enlever cette clause de la convention.
Si ce n'est que une convention, par définition, est un partenariat. Dans le partenariat, il y en a un qui décide, l'autre qui se tait. Le dialogue qui s'est instauré lors de cette sollicitation au plus du syndic a fait apparaître de la part du syndic une demande relative à une récurrence de nettoyage assurée par la commune. Ce que nous espérons, c'est que la commune ne sera pas la seule garante de la propreté des personnes qui sont sédentarisées sur ces lieux et qu'elles-mêmes contribueront au bon entretien de ces passages. C'est parce que ça a été demandé. Voilà.
D'accord, donc on n'aura pas l'entière responsabilité de l'entretien. C'est partagé, non?
C'est ce que nous faisons.
C'est comme ça, mais il faut le comprendre.
Oui.
Nous, on va nettoyer une fois tous les 15 jours en saison et 4 fois dans le reste de l'année.
Si c'est vraiment très sale, eh bien, on y passera beaucoup de plus.
Non, c'est comme ça que c'est écrit dans la convention.
Et le convention est un cadre. Le cadre, on veut qu'il soit propre. Voilà. Oui, moi. D'ailleurs, pas au vote, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant est relatif à la constitution de notre plan de commande pour la mutualisation des travaux de dragage des ports de Frontignan, Palamas des Flots, Pérol, Carnot et Port Camargue. En effet, donc, vous le savez, le port de Carnot a 30 000 mètres cubes de sédiments qui doivent être extraits, autant pour sa bonne santé écologique que pour la navigabilité des unités qui sont les amortisseurs du port. Et quand on peut faire un groupement de commandes à plusieurs, le plus fort, selon la formule consacrée, donc les différents ports de la commune de la baie de la Morte se sont mis ensemble sous l'égide de Michel Carayès, qui l'autre jour animait avec Serge Payarès et Sylvain Conneil le Parlement de la mer diligenté par la région, où justement nous avons senti, et je suis ravi, la région appuie de toutes ses forces et pilote la politique en matière d'embasement des ports et essaye de mettre une mutualisation de moyens au bénéfice des différents ports, dont celui de Carnot, dans le conseil régional de l'Installe. Je profite pour le remercier. C'est une très bonne démarche, très soutenue, très partenariale, très consensuelle, et j'espère que nous pourrons mener à bien, dans les meilleurs délais, le dragage des 30 000 mètres cubes de sédiments qui devraient commencer par cet hiver, mais l'hiver suivant. Voilà. Donc je vous demande de m'autoriser à signer la convention de groupement de commandes publiques avec les ports de Port-Camargue, de Frontignan, de Palamas des Flots et de Pérol. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 15 est un point classique, c'est le mandat spécial aux élus pour le Congrès des maires qui se tiendra à Paris du 18 au 21 novembre. Donc je vous demande de m'autoriser à signer un mandat spécial pour les élus qui sont nommés dans le document pour assister au Congrès des maires sur du lundi soir au jeudi soir. Voilà, comme chaque année. Qui est contre?
J'ai une question.
Monsieur Bourguet, oui.
Donc, en fait, là, je vois que bon, il y a 9 personnes quand même du conseil qui vont y aller.
Oui.
Si moi je souhaiterais y aller avec Simon Anglais, est-ce que vous seriez d'accord de nous financer aussi notre déplacement?
Bien, le mandat spécial, il est venu pour tout le monde.
Oui. D'accord.
Mais vous y prenez un peu tard. Enfin,
oui, mais bon.
C'est une délégation.
Une demande que tu vous fais.
Oui.
D'accord.
On va finir la délibération, non, c'est moi. Oui, oui. On ne peut pas non plus. C'est vrai.
Je pense qu'il y a. Moi, je propose une modification. Je propose le retrait de Mme Laure Tonelli, parce que ce n'est pas un mandat d'élu.
Oui.
C'est dans le cadre d'une autorisation de service.
Oui.
Donc, on pourrait très simplement la retirer, ça ne poserait aucun problème.
Oui. Il y en a quand même, mais on voit.
Oui, mais on a vu une fois. Mais c'est pas une élue. C'est pas dans le cadre de cette autorisation-là.
Nous vous suivrons la délibération de ce sens.
Merci.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 16, mandat spécial, déplacement à Beauvais. Il s'agit d'autoriser le déplacement de M. Clavery, donc qui s'est rendu pour les commémorations des événements tragiques du 19 septembre 1943. M. Clavery est un chargé de relations internationales, donc pour participer au remboursement de ses frais. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 17. Le point 17, Bernard, c'est moi. Schéma directeur Bruno Carnon, projet agroécologique dans le secteur de la Fond de Mongio. Lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection de porteurs de projets. Bon, effectivement, je vais contextualiser cette démarche, puisque, vous le savez, nous avons aujourd'hui, pour le compte de l'agglomération, signé un partenariat, avec la métropole, le Pixadou, la Chambre d'agriculture, donc sur le pacte de Milan, pour justement militer pour la mise en place de projets agroécologiques et de l'alimentation durable avec tout le bassin de vie du Grand Montpellier avec notre comité d'agglomération. Dans le droit fil de cette démarche, nous en avons une illustration particulière ici avec un projet qui est annoncé à la Fonde Monguillot, aux dizaines d'hectares qui seront urbanisés dans les 10 ans qui viennent, avec une partie, 10 hectares, qui seront affectés à la compensation environnementale de l'opération. En plus de ces 10 hectares, nous avons 2 hectares qui pourraient être affectés à l'installation d'un porteur de projet, quelqu'un qui est seul ou en groupement, à l'agriculture urbaine, écologique et biologique. Donc, nous mettons en pratique ce qui est préconisé dans la théorie, et donc cet endroit serait le symbole d'une réussite, d'une cohabitation harmonieuse entre la zone urbaine habitée, l'espace agricole de qualité, avec un projet d'agriculture biologique qui s'inscrit dans une démarche agroécologique. Voilà donc ce que je vous propose pour concrétiser ce qu'on appelle un lancement d'appel à manifestation d'intérêt. Monsieur Frappoli.
Monsieur le maire, c'est ce projet, vous l'installez sur les 17 hectares qui ont été enlever les 30 hectares initiaux du projet d'arbre de Montréal.
On les stoppe sur les... Ah, oui. Il y a... Non. Pas sur les 17. Pas sur la totalité. On en a deux sur des entreprises, oui.
Parce que le problème, c'est que, on en parlait tout à l'heure, au niveau du procès, comment dire, la récupération des eaux de ruissellement sont faites dans un grand... une grande structure qui a été construite sur la mer Préatique, mais après on l'envoie sur le ruisseau de la Fonde Monguillot. Alors le ruisseau de la Fonde Monguillot, lui, n'a pas été urbanisé. Donc je pense que si vous mettez un projet à proximité de cet état de fait, les gens qui vont s'installer là risquent à un moment ou à un autre d'être de tomber dans une inondation qui ne serait pas porteur par rapport au projet que vous devez mettre en place.
Aujourd'hui, le projet est un projet qui bénéficie de toutes les garanties en matière d'hydrologie. Et comme vous le voyez, on paye pas mal de travaux en ce moment, des travaux qui permettent de gérer l'eau. Et là-dessus, je ne suis pas inquiet. Bien entendu, oui, parce que vous êtes riverain et que la nouveauté vous effraie un petit peu. Non, vous posez des questions, vous avez le droit.
On a vécu des choses, monsieur Brouin.
Oui, justement, aujourd'hui on est corrigé, ne vous en plaignez pas. L'avenue Jean Moulin était inondée à chaque fois, on fait tout pour ne plus l'inonder, oui. Vous devez vous réjouir. Donc, ça
on verra.
On verra. Monsieur Brouin.
Oui, déjà ça m'amuse un peu. Quand même, parce que j'avais un projet agroécologique sur ce site en 2014 et vous m'aviez caricaturé en train de planter un poireau. Ça m'avait beaucoup amusé. Mais c'est pas grave. Non, c'est votre équipe. Bon, c'était très amusant, ça m'a beaucoup amusé. Néanmoins, moi je ne soutiendrai pas ce projet parce que c'est tout simplement. Ce qu'on appelle la caution verte d'un projet de bétonnage et d'artificialisation de 19 hectares, tout simplement. Donc, pour donner une petite caution verte, la réalité, c'est que dans cette affaire, on a prélevé 30 hectares, pas 19, à l'agriculture. Voilà, donc, mettre 2 hectares d'agroécologie, c'est pour amuser la population.
Monsieur Bourguet, je trouve que vous êtes dans le passé pour critiquer l'extension possible d'une ville dans un endroit qui lui est dévolu. Vous qui vivez dans un endroit qui aujourd'hui est en zone bien rouge et qui ne bénéficierait pas d'un droit à s'installer. Donc effectivement, en matière de risque naturel, vous en savez quelque chose. C'est un fait. Là où vous vivez sur un endroit qui est normalement de la terre agricole, Et moi, je ne propose pas d'installer des gens sur la terre agricole. Je propose d'installer les gens sur un plan local d'urbanisme qui a été voté en 1995 et qui n'a même pas évolué. Au contraire, il a été réduit. Moi, je suis légaliste, monsieur Bourguet.
Vous installez des gens sur la terre agricole, avec la loi peut-être, mais c'est un fait, c'est tout. Vous artificialisez 19 hectares, vous remettez en zone naturelle 10 hectares pour faire de la compensation. Vous allez verser 700 000 euros à la Chambre d'agriculture pour qu'ils se plaignent moins. Voilà, c'est tout. C'est une réalité.
Ils se revoltent, les agriculteurs. Voilà.
Mais oui, les agriculteurs.
N'interromps pas, c'est à l'intérieur de votre interprétation.
Oui, je ne parle pas. Le problème, ce n'est pas de l'agriculteur. Le problème, c'est l'avenir de notre territoire, c'est l'avenir de notre pays.
Et l'avenir, ce n'est pas la jeunesse, monsieur Bourguet. Voilà. Monsieur,
oui. La jeunesse, elle a besoin de se nourrir. La jeunesse, elle a besoin de produire.
Et vous passez.
La jeunesse, elle ne va pas se nourrir dans du béton.
Et comment installe les jeunes ménages, les jeunes familles? Comment profite une terre habitée Bourguet, monsieur Bourguet, si on ne voit pas de petite urbanisation? Si ce ne sont que des personnes comme moi,
là-dessus, il y a des solutions alternatives, on en reparlera en temps voulu.
En temps voulu, oui.
Voilà, on n'a jamais pu avoir le débat sereinement.
Je pense que
je souhaite qu'on est en train d'artificialiser, dans des hectares de terre cultivable, irriguée, de bonne qualité.
C'est mieux quand même que de vivre dans une zone rurale où on doit dédier l'espace à l'agriculture et où il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de son potentiel. Alors, moi, je suis légaliste, je ne dis rien d'autre que ce qui est permis. C'est tout. Réfléchissez-y. On aura l'occasion d'en reparler. Je sais que vous aurez du temps pour réfléchir. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18. En revanche, celui-là, Bernard, il est pour toi.
Alors, conformément à l'article L300-5 du Code de l'urbanisme, il convient de présenter un compte-rendu d'activité de la concession de la Fonde Mourieu pour l'exercice 2018, arrêté au 31/12/2018. Alors, j'ai un petit... Très bien. Donc, la première partie, c'est un... on ne va pas revenir là-dessus longuement, je pense. C'est un résumé de l'historique de l'opération et des dimensions de l'opération. Donc, vous voyez qu'il y a 70 000 m² de surface de plancher de logement, 740 logements, pardon, et 4 tranches de réalisation. Dans ces logements, il y a 17% de l'eau à bâtir, 125 logements, dont 40 en accession abordable, 52% de logements collectifs libres, 380 logements, dont 70 en accession abordable, et 31% de logements locatifs aidés, 230 logements. Le programme est réparti en 4 tranches. Le programme des équipements publics, vous le voyez, c'est la réalisation des voies, trottoirs, stationnements, réseaux d'eau potable, usées, fluviales, EDF, etc. Le phasage prévisionnel des travaux, je vais demander là qu'on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Donc là, ici, vous avez le plan masse. Le phasage, donc l'opération, la phase 1, c'est la phase qui est en vert, se déroule de 2019 à 2020. La tranche 2, qui est en jaune, se déroule de 2021 à 2022. La phase 3, qui est en orange, oui, c'est l'orange, 2023-2024, et enfin la tranche 4, qui est en bleu ciel, 2025-2026. Voilà, donc ça, c'est un rappel de l'opération. Donc maintenant, on entre dans le compte-rendu lui-même, les événements clés de l'exercice 2018. Au niveau des acquisitions foncières, la SPL a acquis des parcelles appartenant à la société Hectare et a acquis des parcelles appartenant à la commune de Bourguignon sur la pointe de Buis-des-Sens. Les procédures administratives, il y a eu une enquête publique de DUP concernant l'accessibilité des terrains non maîtrisés, la mise en compatibilité du PLU et l'autorisation environnementale. Ensuite, on a une remise des conclusions du commissaire enquêteur le 19 novembre 2018. Il a donné un avis favorable, sous réserve du dépôt de l'étude préalable agricole. Celle-ci a été remise début décembre 2018 à la DDTM. qui est la direction départementale des territoires et de la mer. Ensuite, il y a eu une délibération du conseil municipal le 17 décembre 2018 qui concerne la déclaration de projet, et enfin la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018 qui concernait la mise en compatibilité du PLU. En matière de commercialisation, les événements clés de l'exercice, ça a été la signature du protocole du projet d'habitat participatif du lot numéro 2 entre la ville de Boyau-Carnon, FDI Habitat et leur aménagement. Le lancement de la commercialisation des lots à bâtir avec une réunion de lancement en vue de sensibiliser les premiers acquéreurs, celle-ci s'est tenue le 24 septembre 2018. La signature des premiers compromis de vente des lots à bâtir a eu lieu à partir du mois de décembre 2018. Le concours architecte-constructeur pour la réalisation de 11 lots à bâtir en accession abordable et la désignation du groupe Archive-Kalman. Ensuite, nous avons la signature du compromis de vente de lot 7 avec le groupement FDI Habitat et FDI Promotion pour la réalisation d'un lot mixte de logement social et accession libre. Enfin, l'appel à projet promoteur-bailleur concernant deux groupements de macro-lots correspondant le AB, etc. Ensuite, vous passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en matière de finances, l'avancement de l'opération au niveau des dépenses. En 2018, vous voyez que la première colonne vous donne les dépenses de 2018. La deuxième colonne vous donne les dépenses cumulées au 31-12-2018, c'est-à-dire celle de 2018 plus celle qui aurait dû avant. La troisième colonne vous donne le prévisionnel de 2019. Et la quatrième colonne, intitulée Total bilan, est le montant de l'opération quand elle aura été exécutée. Les écarts sont des écarts entre la situation 2018 et la situation 2017. Je pense que je ne vais pas détailler ligne par ligne. C'est la même chose au niveau des recettes, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, au niveau des recettes, c'est la même chose, mais c'est en recettes. Donc vous voyez effectivement que l'opération est pratiquement équilibrée. Les écarts, eux, sont équilibrés puisque les écarts en dépenses ont été compensés par des écarts en recettes. Donc je vous demande d'approuver ce compte rendu d'activité de la Fonde Mobio.
Je vais faire une petite remarque. Après, je vois que le budget a augmenté de 2 200 000 euros. Ça, c'est depuis le début qu'on le dit, et ça va encore augmenter, puisqu'il y a toujours des nouvelles surprises, il y a toujours des retards, il y a toujours des nouvelles choses qui se greffent, qui n'étaient pas prévues. Donc ça va impacter de nouveau, alors on vous dit bien, ça va être répercuté sur le prix des logements. Alors c'est bien de nous dire, on construit un fonds de Mobio pour loger les jeunes. Le Mobio, à l'époque, on était à une moyenne de 3 700 euros le mètre carré. Là, ça va augmenter encore un petit peu. Mais je crois qu'on va bientôt être au prix des beaux quartiers de Montpellier. C'est très bien, mais voilà, c'est juste une constatation. Après, je peux dire quand même une petite remarque, c'est que je trouve que la SPL n'est pas très fair-play avec nous, parce qu'on lui a racheté les terrains quand elle ne savait plus que faire pour 700 000 euros, et quand même, ils nous ont facturé des honoraires sur la transaction. Alors, on les a dépassés de 500 000 euros et ils nous facturent des honoraires. Ce n'est pas très capté.
Monsieur Bourguet, je vous réfère au simple. On a racheté du terrain constructible au prix du terrain à bâtir. Et ça, c'est la commune qui a bénéficié et pas la SPL. Voilà, point. Je clôt le débat puisque
vous. La commune a bénéficié de quoi?
Envers et contre tout.
Allez. Pas envers contre tout, mais M. Bourguet, n'hésitez pas à des bêtises. On a racheté 700 000 euros de terrain dont on ne fera rien pendant 30 ans, on est d'accord. Pour faire plaisir, pour essayer de combler un petit trou dans le budget de la SPL. Je dis juste, je remarque juste que sur cette transaction, ils nous ont encore facturé des honoraires en plus.
Bon, voilà. C'est la commune qui a gagné.
Ah oui, oui. On a gagné des terrains.
Oui, bien.
Je
ne peux pas prendre la parole.
parle.
Il n'y a plus de... Que ça répercute, ça marche. Moi, je suis d'accord avec M. Bourguet. Je pense que la commune aurait pu faire un effort supplémentaire sur ces terrains. Ça, en payant plus cher, on aurait pu décider qu'on accompagnait mieux ce projet. Ça aurait fait baisser le prix de l'opération. Enfin, moi, je suis en analyse, je suis complètement à l'opposé de ce que dit M. Bourguet. Je profite de cette délibération sur la Fonte Mondio pour poser deux trois questions, puisqu'on est en période électorale. Moi, il m'a été posé la question de, au-delà de la période électorale, savoir si tout serait arrêté, si les gens qui avaient acheté, tout serait gelé, ainsi de suite. Moi, je considère, je le dis comme ça, qu'au nom de la possibilité de l'État, quand un compromis est passé, la signature doit être honorée. Donc c'est la position qui m'engage, et je trouve que c'est une position républicaine, et toute autre position, c'est une extrême fragilité. C'est collectivement fragilité.
C'est de la loi, monsieur Pardé.
Non, mais je le dis, ça permettra à des candidats, s'ils le souhaitent, de se positionner par rapport à ça, mais ça, soit d'accord, soit désaccord. Moi, je considère que le cas, c'est signé. C'est le premier point. Deuxième point, au-delà, si on prend l'opération elle-même, c'est une opération qui est réduite. Là, quand on regarde les phasages, c'est des phasages qui sont plus petits que les phasages voisins. Hein. Je pense à l'opération de Châtaignier à Saint-Donès et à l'opération de Saint-Brest. L'opération de Saint-Brest, où pour une ville de 3000 habitants, la phase qui a été interrompue par Laurent Jaoul, là, c'était une phase à 700 habitants. Donc c'est quand même des phasages plus petits. Donc ça, c'est, on va vers quelque chose de plus raisonnable. Sur la question de l'hydraulique, bon, on a voté les fossés tout à l'heure, mais il faut être vigilant, il faut continuer. J'imagine que la préfecture a été vigilante, mais il faut que nous-mêmes, on soit très exigeants, et il ne faut pas renacler financer les travaux, s'il y a des travaux à faire pour mettre tout ce quartier-là en sécurité. Moi, j'étais content de voter le fossé, hein. il n'y a pas de problème, c'était une des choses où on avait un désaccord en début de mandat, je ne savais pas où on ferait le fossé, là on voit où ça. Dernier point, c'est les enjeux sociaux, et on a eu un échange sur la réorientation et l'effort qui a été fait sur les questions sociales, puisqu'on passe à 30% dès la première phase. Donc ça, moi, je m'en suis satisfait publiquement, je le refais. Donc on est sur quelque chose de plus équilibré. Mais je ne voudrais pas qu'on discute de l'habitat que par le biais de la Fonte Mondio. Politiquement, il faut qu'on ait une discussion puisqu'on est en période électorale. Je dire les choses. Quand moi, j'ai proposé, par exemple, de durcir, d'accompagner, de construire sur la ville, je me suis retrouvé parfois avec d'anciens politiques qui me disaient « Non, on va construire, on va... Pas... » Donc il va falloir dire vite si on accepte d'héberger nos propres enfants, parce que héberger nos propres enfants à Mondio, ça veut dire construire, c'est le développement naturel de la ville. Il va falloir dire vite si on accepte de monter en immeuble ou si on accepte d'accompagner des projets comme celui de Fonte Mondio. Mais le fait de dire on ne fera ni l'un ni l'autre, ça ne pourra pas durer, et on ne peut pas être dans une posture comme ça, qui ne serait pas une posture intellectuellement acceptable. Donc profitons de la période, parce que je vois que tout le monde est chaud pour démarrer la campagne, pour se parler des choses réellement. Donc par rapport au compte rendu, donc, il faut vous donner un acte, vous donne l'acte, vous avez, parce que c'est ça, hein, une trace, hein, on vous donne l'acte, que vous avez,
on va le demander à l'ouvrir, on va l'approuver. On l'approuve le compte rendu. Merci. Et je précise que le travail qui est mené avec mon service urbaniste, M. Cazard, sur la révision du PLU, justement, milite pour l'identification de ces lieux qui sont potentiellement dédiés à accepter sur davantage de population la ville dans la ville sur la ville, en sachant aussi que ce qui est fait dans le contexte de la Fonte Mondio répond à une demande de l'État qui encadre la densité, justement, en termes d'habitat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une consommation effrénée on est dans quelque chose qui est adossé au concept vivre sans s'établir. Je vous remercie pour votre intervention. Je vais vous proposer maintenant d'adopter ce crack.
C'est moi qui mène parce que le maire n'a pas le droit, étant président de la SPF, n'a pas le droit de donner son avis. Donc, qui approuve ce crack? Je change le sens du jour. Qui approuve le crack? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En fait, c'est le point 19, il y a la convention de projet urbain partenarial de Rennes, les ateliers de la Lourde. Le 24 juin 2019, le conseil municipal a approuvé la passation d'une convention de projet urbain partenarial des ateliers de la Lourde entre la commune et la SCCV La Lourde. Alors SCCV, ça veut dire Société Civile Immobilière de Construction-Vente, définissant le montant de la participation de celle-ci au coût des équipements publics nécessaires à son opération de lotissement d'activité artisanale. Le coût de l'opération est évalué à 190 600 euros. Le permis d'aménager a été délivré le 24 juin 2019 à la SCV. La convention prévoyait qu'une partie de la participation se ferait par un apport foncier estimé à 9 800 euros. Or, l'estimation des domaines, parce qu'on est obligé de demander l'autorisation, l'estimation des domaines, pardon, l'estimation des domaines a ramené cette valeur à 7 400 euros. Il faut donc que nous passions un avenant à la convention, précisant que les 174 160 euros à la charge du pétitionnaire se décomposent en apport foncier pour 7 400 euros et en apport en numéraire pour 166 760 euros. Monsieur le maire vous demande d'approuver la passation de cet avenant.
Merci. On passe au vote. Qui contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité.
Le point suivant, c'est le rapport d'activité des voies aménagement. Vous savez que la commune, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, la commune détient 1410 parts représentant 0,26% du capital, soit 22 560 euros du capital de l'Hérault Aménagement. Donc, bien sûr, ils nous ont communiqué le rapport d'activité sur lequel nous devons donner notre avis, sachant qu'aucune opération n'a été menée sur Morio par Hérault Aménagement. Le maire vous demande donc d'approuver le rapport d'activité 2018 de Hérault Aménagement. Ce rapport était joint à l'envoi avec l'ordre du jour.
Merci Bernard. Passons à l'approbation. Contre, abstention. Je vous remercie.
Le point 21, il s'agit du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier et de cession à titre onéreux de terrains communaux. La société Ovia est l'autorité expropriante pour le compte de la ligne TGV. Nous a notifié le 10 mai 2019 le mémoire valant offre pour l'expropriation pour cause d'utilité publique de 29 parcelles communales nécessaires à la réalisation du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. L'indemnité proposée est de 2 euros du mètre carré, étant donné qu'il y a 13 029 mètres carrés, ces parcelles vont être vendues pour 26 058 euros. Voilà. Montant auquel vient s'ajouter une indemnité de réemploi de 26 058 multiplié par 5% qui est 1302,90, soit un total de 27 360,90 € pour ces 29 parcelles qui ont été utilisées pour la LGV. Monsieur le maire vous demande de voter cette.
Monsieur le maire, je m'étonne que ces terrains soient vendus que maintenant, dans la mesure où la FGV est déjà en place et fonctionne depuis quelque temps.
Oui, c'est une régularisation. Et au départ, ils ne savaient pas exactement. Ils ne pouvaient pas, au départ, supposer quelles étaient les parcelles qui seraient totalement vendues ou pas. Donc, effectivement, alors, il y a eu un préaccord avec la FGV, avec OCLIA. Ils utilisaient les parcelles. Après, on fait une régularisation, c'est-à-dire qu'on regarde où on en est et on procède à la vente. C'est la session.
Voilà. On pourrait peut-être utiliser ce budget, monsieur le maire, pour étudier la possibilité d'un mur anti-bruit le long de la ligne.
Monsieur Paré, juste. Vous en avez d'autres comme celle-là, monsieur Francoli ?
Non.
Mais vous, quand vous demandez quelque chose, vous demandez pour les autres. Vous aviez demandé pour venir au CPU, on vous attendait, vous n'êtes pas venu.
Non.
Ah non,
vous ne vous avez pas répondu au deuxième courrier que je vous envoyais parce que j'ai les références là et je ne vais pas en parler.
Mais on vous a demandé, vous avez fait une proposition,
oui.
On y répond, vous ne voulez pas.
Je vous dis pourquoi je ne viens pas. Je ne viens pas voir le CPU parce que je vois le CPU en fonctionnement. Bon, vous me proposez. Si. Regardez, monsieur Bouel, j'ai fait quelques recherches hein, et j'ai trouvé sur le site Portail Territoire, notamment. Et sur le portail des professionnels territoriaux, qui me dit exactement, d'ailleurs je vous l'ai écrit, je vous l'ai envoyé, qui me dit que les personnes extérieures au service est interdit d'accéder à la salle dans une autorisation express. Cette autorisation est ponctuelle et peut être délivrée qu'après une demande écrite adressée au chef du centre. La demande doit être motivée par la personne autorisée, s'engage par écrit à respecter la règle de confidentialité nécessaire. On ne me dit pas que je n'ai pas le droit de regarder les écrans en fonctionnement. Quand vous me parlez de la CNIL, d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est que la réponse verbale que vous me faites en pleine de conseil municipal au mois de juin est exactement la même que vous faites par écrit. C'est-à-dire que vous me dites que vous avez contacté un spécialiste gendarmerie, que celui-ci vous a dit ouais, on n'a pas le droit de regarder les écrans qui fonctionnent. C'est absolument à vous. Et vous citez la CNIL. Or la CNIL, on ne la cite que uniquement dans le cadre du contrôle de fonctionnement de ça, et moi je ne venais pas non plus pour récupérer les images, monsieur Bouin. Je venais simplement pour voir dans quel état était cette CSU et comment elle fonctionnait et quelles étaient les orientations des caméras. C'est tout, je ne demandais pas autre chose, mais de savoir éventuellement quelles étaient les compétences des gens qui étaient devant les écrans. Je ne demandais pas autre chose. Or, vous m'avez répondu, oui, vous venez le voir, mais je vous occulte les écrans parce que vous n'avez pas...
Vous n'avez pas regardé non plus, monsieur...
Mais, et pourtant monsieur Bourrel, si je m'en tiens à cette recommandation, qui est l'article 251.2 du Code de la sécurité intérieure, c'est pas n'importe quoi, on me dit que j'ai tout à fait la possibilité de le voir en fonctionnement, mais de ne pas récupérer les images. C'est pas pareil.
Bien. C'est mon interprétation.
Ah non, c'est pas mon interprétation.
Alors, on prend revenir au point, c'est pas le sujet, là. Monsieur,
oui, c'est la chose.
Alors, j'ai juste une question à poser au sujet de l'OPIA, qui est propriétaire d'un terrain sur la commune de Moudou, par route de Calif de Val d'Arve, qui n'est pas sur la Rosée. Ce terrain a été squatté pendant plusieurs mois par des gens de voyage. Le terrain aujourd'hui a été viré. Je veux savoir à qui vient la charge du nettoyage de ce terrain, si c'est OPIA ou si c'est la commune ou si c'est la ZOU.
À ce moment, vous le savez, vous êtes conseiller communautaire, M. Sanchez. L'agglomération, dans sa dernière séance, a pris la délibération de l'achat pour 70 000 euros environ de toute la prise du DLC par OPIA de sa base de vie quand elle a réalisé le contournement de Montpellier. Elle est en train de passer les différents documents au niveau des notaires, et c'est l'agglomération qui voit avec OPIA ce qui revient à la charge d'OPIA et ce que fera le preneur. Voilà, ce n'est pas la commune. Et d'ailleurs, il y a des projets sur cet espace, donc on arrache les courriers, et nous ferons tout justement pour ne pas que de nouvelles installations indésirables viennent perturber visuellement et même socialement le secteur. Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on en vient au point 22. Nouvelle capitainerie de Cardon. Monsieur Bourguet, vous m'interpellez pour suspendre, pour retirer de l'ordre du jour ce point. Au motif qu'un collectif de personnes s'oppose à cette opération.
Il ne s'oppose pas.
Je vais vous donner lecture quand même du calendrier. D'abord, ce travail de démolition et de reconstruction de la capitainerie est le fruit d'une étude que je suis prêt à montrer et à partager avec la personne du collectif tout autant que cette personne souhaitera le faire, comme je lui propose. Il y a une personne à qui j'ai écrit, à Fernand, dont les arguments de réponse ne semblent pas avoir été convaincants. Je précise qu'il y a un argumentaire avec des éléments financiers que, au sein du conseil d'exploitation, auquel participent les élus qui sont désignés par le conseil municipal, le débat s'est tenu, que le conseil d'exploitation ensuite a permis au club, au comité des usagers, de faire part de cette décision, qu'elle a été commentée, que cette décision s'est prise en novembre 2016, validation du programme et du budget. En décembre, nous avons préparé les pièces sur la consultation de la maîtrise d'œuvre. Nous avons lancé en janvier 2017 la consultation. Fin février 2017, est tenu le premier jury qui n'a pas donné de résultat faute de mon projet. Et mi-mai 2017, c'est tenu un deuxième jury. Alors effectivement, 2 ans après la décision, en sachant que dans ce jury participait l'ancien concepteur de l'ancienne capitainerie, ou par rapport aux considérations en termes d'accessibilité, d'adaptabilité, en termes de besoins pour développer la capitainerie, en termes de considérant le bâtiment comme une passoire énergétique. Donc 2 ans après, je ne peux accéder à une demande, même si c'est toujours intéressant de savoir les raisons qui ont présidé à une décision que je suis prêt, cette personne, je suis prêt à la recevoir. Et d'ailleurs, je m'engage à la recevoir le plus tôt possible, tout autant qu'elle se fera connaître. Mais M. Broguet comprenait très bien, dans ce jeu politique qu'évoquait M. Prenet tout à l'heure, que vous arrivez un peu tard pour justement porter une contradiction, que vous reprenez à votre compte, alors que vous n'avez pas de bateau, que vous ne faites partie ni des arrondissements du port, que vous êtes le porte-parole d'une revendication, que vous relayez, vous n'avez pas la légitimité de le faire, vous avez celle de le dire au conseil municipal si vous le voulez, puisque c'est pour vous de tribune, mais j'afficherai le permis de construire après avoir reçu cette personne, justement, ou au collectif, s'ils sont 2 ou s'ils sont 3, je veux bien, je ne m'intéresserai pas plus, tout autant que ces personnes se feront connaître. Je veux bien, en toute transparence, exposer que 2,5 millions, ça fait plus que 2 millions, exposer en toute transparence que s'il est besoin d'exploitation, c'est 100 mètres carrés de plus, si on essaie de les faire en toiture, ce sont les riverains du petit voilier qui vont pas être contents, si on les fait au niveau du rez-de-chaussée, c'est le passage piéton qui est plus possible sur le quai d'Avary. Si on le fait ailleurs, c'est carrément impossible par rapport à l'accessibilité. Ces choses-là, je suis prêt à les commenter, comme le directeur général du service l'a fait auprès des personnes qui l'ont demandé. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Mais je ne retire pas, ça serait trop facile, chaque fois que quelque chose ne convient pas. Alors que ça a été présenté, débattu, argumenté dans l'instance qui s'appelle le conseil portuaire, le conseil d'exploitation. Je rappelle que le port est une région autonome et que le financement de la capitainerie se fait entièrement sur le budget du port. Il ne se fait pas avec le budget municipal. Donc c'est un budget spécifique avec un conseil d'exploitation qui a toute légitimité pour justement discuter, confronter. Voilà.
Monsieur le maire, d'abord, je ne récupère rien à cette affaire. Simplement, si les gens sont venus me trouver, c'est peut-être qu'ils n'ont pas trouvé l'écoute ailleurs. Donc ça, ce n'est pas de ma faute. Je suis quand même un élu, je suis quand même un élu du peuple, donc j'ai la légitimité de parler au nom des gens qui me le demandent. Là, j'ai 9 pages de signatures. 80% émanent d'usagers du port, donc des gens qui sont les payeurs. Ce sont les payeurs, pas l'oublier, comme vous venez de le dire. Une autre partie des payeurs, c'est notre argent, puisque ce sont des subventions, donc de l'argent public, donc de nos impôts. Donc, tout le monde est concerné. Les, bien sûr, les usagers du port, qui sont les premiers payeurs, les deuxièmes payeurs, c'est nous. Alors, la question, ce n'est pas de dire on ne veut pas de votre projet. La question, c'est que les gens s'interrogent. Ils ont vu le projet que vous avez présenté, le concours d'architecte. Ils ne comprennent pas, voilà, ils ont besoin d'avoir une discussion avec vous, technique, avec des chiffres. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre. Voilà. Donc, on ne demande rien d'autre pour le moment. Le problème, il a été affiché il n'y a pas longtemps, un permis de démolir. Alors, ce que ça veut dire, ce permis de démolir, que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui, vous l'avez déjà en réalité. Il a été affiché pendant 2 jours, c'est la photo.
Il a été retiré.
Il a été retiré, c'est-à-dire que vous avez le permis de démolir. Aujourd'hui, vous nous demandez l'autorisation de déposer un permis de démolir. Vous l'avez déjà.
Non, c'est une. Je suis autorisé par le conseil municipal.
Vous l'avez déjà.
Nous sommes allés un peu vite en besogne. Nous avons rectifié.
Donc vous avez donc, déjà inscrit un permis de démolir sans que vous avez au conseil municipal. Mais,
monsieur Bourguet,
oui, c'est une réalité.
Monsieur Bourguet. Il est tellement facile, en l'absence de votre colistière, qui a assisté en 2017 aux deux jurys,
je ne parle pas
et qui a voté, et qui a voté à l'unanimité la déconstruction de la capitainerie, le projet de nouvelle capitainerie. Jusque-là, tout allait bien, tout le monde était d'accord. Et puis, comme il y a un calendrier qui s'annonce en 2020, tout d'un coup, vous vous réveillez en étant le réceptacle d'une contestation dans laquelle vous n'avez rien à voir. Alors là, je vais vous appeler monsieur le Royal.
Voilà, ouais, alors là, vous êtes fort. Hein. Bon, en tout cas, donc ça veut dire que le permis de démolir, il existe déjà.
Il y a des
petits de même, vous pouvez amener le château faible.
Je n'amène rien du tout.
Voilà. Bon, allez, tout ce que je voulais savoir. En tout cas, les gens, il y en a qui sont là, je ne sais pas si vous ont entendu, qui viendront vous voir.
Très bien. Allez. Donc, on a. Comment ? Oui, je fais monter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bernard.
Alors, il s'agit du point numéro 23. Le point 23, excusez-moi. C'est le réaménagement de l'immeuble Prévert et le dépôt du permis de construire modificatif, comme on en a parlé tout à l'heure. Je voulais simplement dire que au niveau de la capitainerie, le permis n'est pas déposé, il est prêt à être déposé, mais il n'est pas déposé. Il n'a pas été instruit par le service d'urbanisme.
Ah, le permis de démolir. Hein.
Le permis de démolir n'a pas été déposé.
Pourquoi il a été affiché?
Ça a été une erreur, mais il n'a pas été déposé. Là, aujourd'hui,
il n'a pas de mise de forme, non, monsieur Cassin.
Mais il est prêt à être déposé.
Mais pourquoi il a été affiché? Ah
oui, il y a eu une erreur. Bien sûr, il y a eu une erreur.
Mais oui, non.
Ça ne pas être affiché, c'est effectivement ça.
Vous reconnaissez que ça prête à conclusion.
Mais ça prête à conclusion, donc je suis en train d'essayer d'éclaircir la situation.
Bien.
Donc, je vous le dis, le service urbanisme n'a pas procédé à l'instruction du permis de démolition.
D'accord.
Aujourd'hui, en raison d'une délibération que nous avons prise, nous, oui. Conseil municipal, le 29 juillet 2019, le maire a été autorisé à procéder au dépôt des demandes d'autorisation de permis, d'urbanisme, etc., sous certaines conditions. Il s'avère que la capitainerie, comme Prévert, qu'on va traiter tout de suite, entre dans ces conditions, puisque les conditions, je vous les rappelle, c'est la démolition d'un élément bâti patrimonial remarquable, c'est le cas aussi bien de la capitainerie que de Prévert, Prévert n'étant pas démoli, bien sûr, et l'édification d'un bien d'une superficie supérieure à 150 mètres carrés de SDP. Or, effectivement, la capitainerie est de 377 mètres carrés SDP, et Prévert, c'est beaucoup plus. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, on demande l'autorisation de déposer les permis. C'est en vertu de cette délibération.
Si je peux me permettre, pour la petite histoire, j'avais demandé à la DRAC de classer l'école Prévert, ne serait-ce que par rapport aux fresques qui étaient sur le fronton. Malheureusement, ça va porter
Non.
Ça n'a pas abouti.
Bien. Donc, j'espère que mon explication vous a convaincu. Et on passe au point 23, donc Prévert. Comme je vous l'ai dit, donc c'est par rapport à cette délibération, nous devons effectivement déposer un permis modificatif de Prévert sur le projet dont on a parlé tout à l'heure, le projet d'extension du rez-de-chaussée qui permet de créer une salle de réunion et l'aménagement de l'étage au bâtiment nord pour créer une salle d'exposition et des sanitaires. Qui remplace les plateaux qui étaient libres jusque-là. Je parle sous couvert de mes collègues, de vos travaux et aux associations. Donc, on demande l'autorisation. Aujourd'hui, M. le maire demande l'autorisation de déposer le permis modificatif pour Prévert.
C'est un permis pour faire l'extension sous les plateaux.
Oui, c'est l'extension de la salle de réunion, la nouvelle salle de réunion.
Au-dessus
des platanes, au rez-de-chaussée. Et au-dessus, il y a la création d'une salle d'exposition et de décès.
C'est un peu comme le permis de démolir la capitainerie, ça, parce que
c'est la même chose.
Il y a une grosse partie qui est déjà finie, et l'autre partie, les fondations sont faites, la dalle est presque coulée. Et on n'a toujours pas demandé le permis.
Non, non, non.
Voilà, je laisse la question de travaux vous expliquer ce qui est.
C'est le rapprochement du cadet Rouquet.
Et l'extension, elle va être où alors? La prochaine extension.
Quand
nous avons fait les travaux, là, il y a des inflations entre les platanes.
Oui, on s'est aperçu, non, je vous dis, c'est le renforcement du galéron. On s'est aperçu que la route avait travaillé, était confortée, et on est tout de suite pris le date de répartition. Dans la répartition, comme ça, tout est renforcé. Et c'est pas les fondations, ce ne sont pas les fondations, disons, de la structure qui doit arriver.
Bien, on passe au vote. Contre, abstention, je vous remercie. Je signale le permis de démolir la capitainerie que j'ai reçu du chef du condensateur. On rétablira les deux jours d'avance pour le remettre à l'heure. Le point suivant, toujours Bernard.
Alors, le point 24, c'est la cession à titre onéreux des locaux de l'Agora. L'aménagement d'une partie de l'île au Prévert en maison des associations, pardon, va libérer les salles de l'Agora qui étaient dédiées à l'accueil de certaines associations et à certaines réunions. La commune a reçu une offre d'achat des trois salles émanant de la SARL AID2, représentée par M. Ronzetti. Et cette proposition d'achat s'élève à 210 000 euros. Cette offre correspond à l'estimation des domaines du 4 juillet 2019, qui s'élève à 70 000 euros par local, avec une possibilité de plus ou moins 6%. La cession, bien sûr, ne pourra être réalisée que lorsque les associations utilisatrices disposeront des locaux en cours de réalisation à l'école Prévert. Il est hors de question qu'on cède ces salles avant que l'on puisse fournir aux associations qui les occupent à titre gracieux où certaines réunions se déroulent, avant qu'on puisse organiser ces différentes occupations sur l'îlot Prévert. Voilà, Monsieur le maire donc vous demande d'approuver la cession de ces locaux à la société.
Monsieur Bouquet.
De toute façon, je vous l'avais déjà dit, je suis contre cette vente de ces salles, on en a besoin. On en aura besoin même quand Prévert sera fini, parce que Prévert, c'était pour avoir un plus, pas pour être au même niveau qu'aujourd'hui. Donc voilà, je trouve très regrettable que la commune vende ces trois salles, il s'agit de trois locaux. Voilà, je trouve ça vraiment très regrettable et très demandable.
Finalement, M. Bourguet, vous voulez moins de galgoriens et davantage de salles.
Quand on manque de salles, vous le savez très bien. Oui, c'est des raccourcis, mais c'est facile de faire
des raccourcis. Vous
savez très bien qu'on a des problèmes de salles à mon bio.
Mais c'est pour ça qu'on fait une maison des associations.
Et c'est pour ça qu'il faut garder ce qu'on a.
Vous avez le patrimoine avec les frais constants. En termes de gestion, c'est pas terrible. Bien, c'est votre avis, comme d'habitude.
C'est bon, on a
notre compte. Reste-y. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Balsamo.
Point 25, rapport annuel 2018 des comptes de la société Laure Aménagement. L'Assemblée générale ordinaire de la société Laure Aménagement a approuvé les comptes de la société le 25 juin 2019. Les comptes ont fait l'objet d'une certification sans réserve de par les commissaires aux comptes. L'année 2018 de la société fait apparaître un résultat bénéficiaire de 17 188 euros contre 52 000 en 2017. En effet, l'activité a été marquée conformément aux prévisions par la fin de la commercialisation du loup blanc des airs à Buisson et de la tranche 3 des châtaigniers à Saint-Aunès. Néanmoins, le relais des opérations de concession seront assurées pour les exercices futurs par la Forme Mondiale, la ZAC Les Conques à l'Ensemble et les Roselières à Valère. Concernant le produit d'exploitation de la société en 2018, il s'élève à 10 464 000 euros et s'analyse de la manière suivante. 9,4 millions provenant des activités de concession, aménagement des zones, 7,8 millions et 1,28 millions provenant de l'activité assistance, maîtrise d'ouvrage, mandat et mission. Les missions d'assistance en maîtrise d'ouvrage connaissent une augmentation par rapport à 2017, elle s'élève à 217 000 contre 176 000. Ces missions continuent de s'orienter sur des sujets de développement économique, bâtiments, requalification urbaine, portuaire, et seront le relais pour les années futures de l'activité de la société. Pour les activités de mandat, de nouvelles conventions ont été signées au cours de l'année 2018, un mandat d'études de travaux pour la commune de Montbiot concernant le schéma directeur de Carnon, et un mandat d'études et de travaux avec la commune de la Grande-Motte dans le cadre du projet de ville porte que mène la Grande-Motte. Le développement de cette activité a permis de dégager un chiffre d'affaires de 72 000 contre 7 000 en 2017. Au niveau des concessions, la rémunération globale issue des traités de concession a connu une légère baisse en 2018 par rapport à l'année 2017. Elle s'établit à 739 000 euros contre 820 000 euros. Ce constat provient essentiellement par la fin de la commercialisation de la ZAC des loups, plans déserts et des châtaigniers. Pour les exercices futurs, cette activité sera alimentée par l'émigration des opérations conduites sur les actes des roselières, les conques et la fonte mondiale. Concernant les charges d'exploitation de la société, ceci s'élève à 10 452 000, 9 439 qui proviennent de l'activité concession qui est le compte miroir des produits d'exploitation à l'équilibre et 1 013 000 de charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement sont principalement 771 000 de salaire, de rémunération de prestataires 25 000. Comme les années précédentes, ces frais sont exclus, au contrat réseau conclu avec la SCET. La faiblesse de ce poste, je tiens à le signaler, inclut une valeur ajoutée significative créée par le personnel de la SPL. Les charges externes récurrentes, 212 000, EDF, loyer, informatique, etc. Les impôts et taxes de 21 000 en baisse, en baisse de 49% par rapport à l'an dernier, qui est due essentiellement à la contribution économique territoriale, l'ex-taxe professionnelle. Au niveau du bilan, celui-ci est en constante progression, le prix du bilan progresse de 7,3 passant de 19 millions à 21 millions. L'activité concession représente 87% du prix du bilan. Enfin, la situation patrimoniale est satisfaisante et progresse régulièrement. Les fonds propres ont progressé de 1,2 entre 2017 et 2018. Au 31 décembre, les capitaux de la société s'élèvent à 1,4 million et sont composés de 78% de réserves. Cette situation permet de sécuriser la société à moyen terme. Voilà. Vous avez des questions sur les comptes? Je peux y répondre.
Qui contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Tricor va nous parler du temps de travail de la police de nuit.
Donc le temps de travail des agents de police de nuit, actuellement nos agents de police travaillent 35 heures par semaine et nous nous proposons afin de rétribuer ces agents et de reconnaître la pénibilité du travail de nuit, de leur attribuer 5 jours de réduction de temps de travail du fait de la pénibilité. Il y a des questions?
Oui, mais vous quoi? On parle de pénibilité tout en travail de nuit notamment, et je voudrais savoir comment la police municipale a été orientée cet été par rapport à des premières fonctions de nuit qui avaient été présentées par M. le maire au mois de novembre.
Comment c'est orienté, ça veut dire?
C'est-à-dire comment ils ont travaillé sur un cycle 24-24 par exemple pendant l'été.
La police de nuit travaille actuellement sur une petite semaine de 3 nuits et une grande semaine de 4 nuits, ce qui fait au total 70 heures. Donc 35 heures par semaine, si on équilibre les deux semaines, de 6 heures du matin à 20h, de 20h à 6 heures du matin.
C'est comme ça qu'on fonctionne une équipe. Mais est-ce que vous avez eu tous les effectifs cet été, sans parler des jeunes renforts d'été à SVP, est-ce qu'au niveau titulaire, vous avez eu tous les effectifs annoncés par M. le maire, en sachant que certaines ont été embauchées comme en septembre? Comment vous avez fait pour tourner?
Tout simplement, les gens du service de la police ont accepté eux-mêmes, sont trop motivés, pour venir combler le temps de nuit qu'on n'a pas recruté avant le 1er juillet. Donc ça s'est fait tout simplement sur proposition des candidats qui ont été les policiers actuels qui faisaient le jour, qui sont proposés par la nuit, le temps que le recrutement s'est terminé.
Et il n'y a pas eu de carence dans la journée par rapport à un manque d'effectifs sur des récupérateurs
Non. On a veillé à ce que le temps de travail soit respecté.
Oui, non, mais j'entends. Le temps de travail, j'entends bien, mais moi je parle de carence de personnel dans la journée, dans la mesure où ceux-ci avaient travaillé la nuit.
Non, parce que c'est une période où on fait appel à des renforts de saisonniers.
Oui, mais ils ne travaillent pas la nuit, les renforts
saisonniers. Non, justement. Donc il n'y a pas eu de carence en personnel.
Donc vous avez
appel à des saisonniers pour...
En fait, vous avez remplacé les saisonniers à SVP par du personnel titulaire la nuit. Mais les missions de police n'étaient pas les mêmes, du coup.
Les personnels saisonniers pour la journée ne font pas ça.
Mais oui, c'est ce que je vous dis.
Voilà.
Donc, vous les avez remplacés dans la journée par du personnel qui était normalement titulaire.
Non.
Vous avez
employé la... Il y a simplement... je vous explique comment ça marche. Il y a du personnel de police. On accepte une période limitée pour ces personnels de police de congé sur la période estivale, parce que c'est là où on a le besoin de plus d'eux.
Oui.
Et donc, eux-mêmes sont venus se proposer, ils ont étalé leur projet, reporté leur projet à l'automne et à la basse saison. On peut les saluer, parce que c'est pas... J'ai été très content que ces agents-là se proposent de renoncer à leurs 15 jours de congé habituels sur la période de juillet août pour prendre service et servir la police. Donc, non, il n'y a pas eu de manque de policiers traités sur la commune.
D'accord. Bon. Moi, j'ai une expérience qui s'est passée le 16 juillet, où j'ai fait appel au service de police parce que la rue Arnaud-Montroy a été obturée par un stationnement gênant dans le cadre des travaux de la Lézard-Moulin. Et il a fallu que je fasse état de ma qualité d'élu pour faire déplacer la patrouille qui se trouvait à Carnot. Et la réponse que j'avais eue, c'est qu'on ne peut pas faire travailler tout le monde dans la mesure où ils ont travaillé la nuit du 14 et du 15 juillet. Ils ont fait du 13 et du 14 juillet, ils sont en récupérateur. Ce qui fait qu'il y avait une patrouille de deux titulaires dans un véhicule sur l'ensemble de la commune, Mouguio, Carnot et les Écarts. Si. Et la dame m'a dit, ne vous énervez pas, je vous envoie du monde. J'ai dit, mais moi je ne m'énerve pas. Il y a une ambulance qui veut rentrer et rendre à mon roi, elle ne peut pas. Alors on fait comment?
Si vous voulez, demain on ira au poste, on verra les plannings. Et
le directeur,
M. Belmont, on verra les plannings.
Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'avait
été posé sur le
perturbé. Bon, excusez-moi, voilà, c'est tout. Bravo.
Bien, c'est une question. On passe au vote?
On passe au vote. Qui contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Ça y est, j'ai voté pour.
Je vous en remercie. Donc, le point 27. Je vais vous parler, c'est un peu barbare, le système. C'est une obligation qui nous est faite à la collectivité. C'est quelque chose de pratique dès le 1er janvier 2020, c'est la transformation des indemnités faites à nos agents. Ça se fait en deux parties. Alors, j'espère que vous l'avez lu parce que c'est un peu barbare, parce que c'est un peu long. Ça se compose en deux parties, l'IFSE et le CIA. Donc nous, Mairie de Montguyon, nous l'avons mis en place, nous le mettons en place à partir du 1er janvier, de façon à ce que sur l'IFSE, il n'y ait aucune perte pour l'agent, quel qu'il soit, ce qui n'a pas été le cas de toutes les collectivités qui sont lancées dans un grand programme de remise à plat. Nous, on le fait à zéro perte pour l'agent. Pour le CIA, c'est le versement annuel qui atteindra compte de quatre critères, la valeur professionnelle, l'investissement personnel, le sens du service public et la capacité de travail à l'équipe. Et dans ces deux critères de versement, on a tenu compte de deux groupes de personnes encadrées et encadrantes. Voilà, on l'a voulu au plus simple pour que ce soit facile à mettre en place. Donc ça a été discuté à la CT avec les organisations syndicales et je vous propose donc de le voter à l'État.
S'il vous plaît. J'ai étudié ces tableaux et je vois qu'il y a beaucoup de disparités entre par exemple le groupe 1 directeur général de service qui est à 57 120 euros et un pôle directeur du groupe 3 qui est à 11 970 euros. Quelle est l'explication d'une telle différence? Est-ce que dans le directeur général de service, il y a beaucoup plus de personnel, donc beaucoup plus de gens rémunérés, ou est-ce que c'est par rapport à la qualité ou à la, comment vous dire, au classement administratif que peuvent avoir ces gens-là sur la
maison? Oui, c'est par filière. C'est comme ça que ça marche, c'est par filière. Et puis c'est comme on l'a dit, c'est encadré et encadrant. Celui qui encadre le plus de personnel.
Oui, mais voilà. Je vois qu'il y a une différence entre le directeur général des services OK et adjoint, par exemple, adjoint directeur au pôle directeur, il est à 20 000 euros. Il y a quand même 27 000 euros d'écart. Alors que c'est le même service.
Oui, non. Moi, je pense que c'est la filière. C'est la filière administrative qui ne correspond pas à la filière technique. C'est les tableaux qui nous sont donnés. En fait, le RICEP, c'est juste qu'on calque un modèle d'État sur la territoriale. Tout simplement.
Il y a peut-être une adaptation à faire à intramuros, trois dans la ligne.
Le premier point, c'est qu'on a voulu à ISO. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu changer le régime de personne pour pas qu'il y ait de pertes ni pour les uns ni pour les autres et que donc, ça ne coûte pas cher à la collectivité. C'est-à-dire que ce changement ne coûte pas plus à l'RH. Donc on l'a fait ISO, ce qui se fait toucher hier, ils le toucheront au mois de janvier.
D'accord, mais moi,
c'est un problème, c'est un barème national qui n'est pas forcément atteint.
C'est un plafond.
Voilà. On me souffle d'ailleurs qu'il regrette que le plafond ne soit pas plus haut.
Je m'en doute.
Personne n'est au plafond.
Quoique tout le monde n'est peut-être pas dans ce même raisonnement, monsieur.
Je voudrais savoir qu'est-ce que les syndicats se sont prononcés, qu'est-ce qu'ils ont voté en comité technique.
En comité technique, ils ont approuvé, puisqu'ils ont participé avec nous à l'étude de cette mise en place. Approuver et ils nous demandent une seule chose, c'est-à-dire de creuser les quatre critères qu'on vous a énoncés, valeur professionnelle, l'investissement personnel, le sens du service public, la capacité de travailler en équipe. Ils nous demandent entre chaque ligne de rajouter des lignes pour bien préciser qu'est-ce qu'on appelle ces définitions-là.
Mais ils ont approuvé ou ils se sont abstenus?
Non, ils ont approuvé le critère.
Oui, moi. Je ne voudrais pas vous embêter, puisqu'il faut appliquer quelque chose de national. Et par contre, je voudrais vous aider, vous accompagner sur cette volonté de s'approfondir. Vous avez eu un échange avec les syndicats. A priori, les syndicats, j'ai mal compris ce qui s'était un petit peu vu en CD. Mais par contre, on se trompe, on a les mauvaises infos.
Il y a des approbations et des abstentions, je confirme.
Donc, vous allez, quand vous allez reprendre le dialogue avec eux,
jeudi.
on va vous faire une petite pression politique en s'abstenant. Ce qu'on fait rarement, on ne l'a jamais fait depuis le. En vous demandant à chaque fois si c'était consensuel, quand il y a eu ces consensuels depuis le début du mandat. Mais là, il y a un petit sujet, donc je vais m'abstenir pour que vous puissiez retravailler ça tranquillement.
Ils sont d'accord sur le principe.
Oui,
ils sont d'accord sur le principe.
Le diable est dans les détails.
Par pure forme, ils souhaitent qu'on aille plus loin.
On les aide.
On doit écrire un peu plus finement des critères d'obtention.
On est tous d'accord.
Je le cache pas.
On s'abstient si vous voulez.
Faites ce que vous voulez. Si vous abstenez, je vote. C'est bon,
non ? On va y arriver.
Non, mais d'autant qu'il n'y a pas le feu, parce qu'on pouvait. On a jusqu'au 31 décembre 2020. Hein, on n'était pas obligé de le mettre en place.
C'est un décret qui date de 2014.
Non, mais on a jusqu'au 31 décembre.
Il faut être appliqué depuis 2020.
On a jusqu'au 31 décembre 2020.
À un moment, on ne peut pas voter.
J'y arriverai juste.
Pas les mettre en application.
Pas le feu.
C'est un décret à libération prolongée. C'est-à-dire qu'on le prend juste avant qu'ils soient. Allez, on passe au vote. Contre, abstention. Merci. On est pratiquement. C'est 28. Et donc, modification et tableau des effectifs. Donc, un poste d'agent administratif, un poste d'accueil administratif, un CDI sous convention collective du port de plaisance. Donc, cette personne est en remplacement. Depuis 2017. Et donc, il est proposé de la passer par celui au port de Carnon. On passe au vote contre l'abstention. Je vous remercie. Donc, Paul 29, aide à la saison culturelle 2019-2020. Donne une subvention, Sophie.
Monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal que le programme de la saison culturelle pour l'année 2019-2020 offre une série d'événements pour tous au plus près de chacun. Monsieur le maire souligne que cette programmation propose des esthétiques variées et fait par ailleurs valoir que 70% des compagnies programmées ou soutenues à la création sont des compagnies régionales. Monsieur le maire précise que la programmation de spectacles vivants reflète la volonté de la commune de développer une politique culturelle accessible au plus grand nombre dans une optique de démocratisation culturelle. Par conséquent, la tarification de cette programmation pluridisciplinaire visant des publics aux profils variés et modérés qui propose différentes réductions. Dans ce contexte, M. le maire propose au conseil municipal de solliciter l'aide de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée pour financer la prochaine programmation culturelle 2019-2020 dont le budget prévisionnel s'élève pour le champ artistique à 119 000 euros TTC. Il est donc proposé au membres du conseil municipal d'adopter la proposition, d'autoriser M. le maire à demander la subvention la plus élevée possible et de l'autoriser ou son adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Sophie. C'est pas la question, on passe au vote. La culture, en effet, c'est bien. Qui contre, qui s'abstient, je vous remercie. Laurent, monsieur Lé, va nous parler de la recette, du reversement des recettes à la vente des brasseries de la fête érotive au club taurin de la commune.
Comme chaque année, les brasseries facettes pour les majeurs des ventes de presbytère a permis de générer une enveloppe de recettes de 4 565 euros. Cette somme est intégralement répartie et équitablement. Alors, j'ai juste une petite précision entre la délibération. Je voudrais qu'on modifie le fait qu'on ait marqué les 4 clubs lorrains, mais en fait, c'est les 3 clubs lorrains et l'école des Rasenberg. Donc, c'est équitablement réparti entre ces 3 et cette école, équitablement à raison de 1141,25 € pour chaque année.
Merci Laurent. Pas de questions ? On passe au vote. Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Ainsi se termine cette séance du conseil municipal. La suivante, la prochaine, aura lieu début décembre, le 9 ou le 16. Le calendrier n'est pas encore fixé. Ce sera à Mobio. Merci pour votre participation. Mes salutations à l'assistance qui nous a fait l'honneur d'écouter les débats de ce conseil. Merci.